25 ans.
Reportage signé Agnieszka Kumor. Je vous laisse en compagnie de Juan Gomez pour rappel sur l'actualité.
C'était le journal de Léa Boutin-Rivière. 9h10 à Paris, 8h10 en temps universel. Restez avec nous dans...
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, j'ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé...
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Nous allons vous faire entendre des extraits d'un roman qui nous a beaucoup touchés par son sujet et la qualité de son écriture. Il s'agit de « S'adapter » de Clara Dupont-Monod, prix Goncourt des lycéens 2021 et publié chez Stock. Clara Dupont-Monod, journaliste et écrivaine, a déjà publié plusieurs romans remarqués, tels que « La folie du roi Marc » en 2000, « La passion selon Juette » en 2007, « Nestor rend les armes » en 2011, ou « Le roi disait que j'étais diable » en 2014. Dans ce nouveau roman, elle fait le récit d'une vie de famille bouleversée par la naissance d'un enfant inadapté et s'attarde plus particulièrement sur les réactions et les sentiments des frères et sœurs face à cet enfant. Pour raconter cette histoire, elle adopte un point de vue singulier en faisant parler les pierres, témoin objectif du désarroi de cette famille.
Un jour, dans une famille, est né un enfant inadapté. Malgré sa laideur un peu dégradante, ce mot dirait pourtant la réalité d'un corps mou, d'un regard mobile et vide. Abîmé serait déplacé. Inachevé également, tant ces catégories évoquent un objet hors d'usage, bon pour la casse. Inadapté suppose précisément que l'enfant existait hors du cadre fonctionnel. Une main sert à saisir, des jambes à avancer, et qu'il se tenait néanmoins au bord des autres vies, pas complètement intégré à elles, mais y prenant part malgré tout, telle l'ombre au coin d'un tableau, à la fois intruse et pourtant volonté du peintre. Au départ, la famille ne discerna pas le problème. Le bébé était même très beau. Un jour, alors qu'il se reposait dans son transat, sa mère s'agenouilla. Elle tenait une orange. Doucement, elle passa le fruit devant lui. Les grands yeux noirs n'accrochaient rien. Il regardait autre chose. Personne n'aurait su dire quoi. Elle passa encore l'orange, plusieurs fois. Elle tenait la preuve que l'enfant voyait mal ou pas du tout. On ne saura rien des courants qui, à cet instant, traversèrent le cœur d'une mère. Nous, les pierres rousses de la cour qui faisons ce récit, nous nous sommes attachés aux enfants. C'est eux que nous souhaitons raconter. Enchâssés dans le mur, nous surplombons leur vie. Depuis des millénaires, nous sommes les témoins. Les enfants sont toujours les oubliés d'une histoire. On les rentre comme des petites brebis. On les écarte plus qu'on ne les protège. Or, les enfants sont les seuls à prendre les pierres pour des jouets. Ils nous nomment, nous bariolent, nous couvrent de dessins et d'écritures. Ils nous peignent, nous collent des yeux, une bouche, des cheveux d'herbe, nous empilent en maison, nous lancent pour faire un ricochet, nous alignent en limite de Gaulle ou en rail de train. Les adultes nous utilisent, les enfants nous détournent. C'est pourquoi nous leur sommes profondément attachés. C'est une question de gratitude. Nous leur devons ce récit. C'est donc eux que nous regardions lorsque le père les convoqua dans la cour.
Très vite, les parents s'aperçurent que le bébé n'était pas tonique. Sa tête tombait comme celle d'un nouveau-né. Il fallait toujours une main sur sa nuque. Ses bras et ses jambes restaient allongés, sans force aucune. Sollicité, il ne tendait pas ses mains, ne répondait pas, n'essayait pas de communiquer. Son frère et sa sœur eurent beau agiter des grelots, des jouets de couleurs vives, l'enfant ne saisissait rien, les yeux ailleurs.
Un être évanoui, avec les yeux ouverts, résuma le frère aîné à la calette.
Ça s'appelle la mort, rétorqua-t-elle malgré ses 7 ans.
Le pédiatre pensa que cela n'augurait rien de bon. Il conseilla un scanner du crâne sous la houlette d'un éminent spécialiste. Il fallut caler le rendez-vous, quitter la vallée pour se rendre à l'hôpital.
De là, nous perdons leurs traces, car en ville, personne n'a besoin des pierres. Mais nous les imaginons garer la voiture, racler avec soin leurs chaussures sur le long paillasson après les portes automatiques. Ils attendirent debout, dans une salle, chancelant sur des dalles de caoutchouc gris, guettant un professeur. Il vint, les appela. Il tenait des radios à la main. Il les invita à s'asseoir. Sa voix fut douce pour un verdict sans appel. Leur enfant grandirait, certes. Mais il resterait aveugle, ne marcherait pas, serait privé de parole, et ses membres n'obéiraient à rien, puisque le cerveau ne transmettait pas ce qu'il faut. Il pourrait pleurer ou exprimer son bien-être, mais pas plus. Ce serait un nouveau-né pour toujours. Enfin, pas tout à fait. Le professeur expliqua aux parents d'une voix encore plus maternante que l'espérance de vie pour ses enfants ne dépassait pas 3 ans.
Les parents jetèrent un dernier regard à ce qu'était leur existence. Désormais, tout ce qu'ils s'apprêtaient à vivre les ferait souffrir. Et tout ce qu'ils avaient vécu avant aussi, tant la nostalgie de l'insouciance peut rendre fou. Ils se tenaient donc sur la faille, entre un temps révolu et un avenir terrible, qui, l'un comme l'autre, appuyaient de leur poids de douleur. Chacun composa avec sa réserve de courage. Les parents moururent un peu. Quelque part, dans le tréfonds de leur cœur d'adulte, une lueur s'éteignit. Ils s'asseyaient sur le pont au-dessus de la rivière, les mains enlacées, à la fois seuls et ensemble. Leurs jambes pendaient au-dessus du vide. Ils s'enveloppaient des bruits de la nuit comme on s'enroule dans une cape pour avoir chaud ou disparaître. Ils avaient peur. Ils se demandaient: pourquoi nous? Et aussi, pourquoi lui, notre petit? Et bien sûr, comment va-t-on faire?
Ce soir de Noël signa quelque chose d'irréversible. Durant les mois suivants, l'aîné s'attacha profondément. Avant, il y avait la vie, les autres. Maintenant, il y avait son frère. Leur chambre était côte à côte. Chaque matin, l'aîné s'éveillait avant la maisonnée, posait un pied à terre, frémissait au contact des tomettes. Il poussait la porte, se dirigeait vers le lit qui déployait ses volutes de fer blanche, dans lequel lui et sa sœur avaient dormi aussi, avant de grandir et de demander un couchage adapté. L'enfant, lui, ne réclamerait rien. Il garderait donc ce lit. L'aîné ouvrait la fenêtre, laissait entrer le matin. Il savait extraire délicatement l'enfant, la main sur la nuque, le transférer sur la table allongée, Il le changeait, l'habillait, puis descendait avec précaution vers la cuisine pour lui donner une compote préparée la veille par sa mère. Mais avant d'exécuter tous ces gestes, il se penchait sur le matelas. Il posait sa joue sur celle de l'enfant, émerveillé par cette pâleur si douce, et restait ainsi, dans ce contact immobile, peau contre peau. Il savourait le rebondi crémeux de cette joue, et qu'elle soit sans défense, offerte à l'appel d'une caresse, peut-être même offerte rien que pour lui, l'aîné. Le souffle de l'enfant montait de façon régulière. Les yeux ne regardaient pas dans la même direction, l'aîné le savait. Lui regardait les torsades du lit et derrière la fenêtre qui donnait sur la rivière. L'enfant contemplait un ailleurs, calé sur un rite que personne ne déchiffrait. Cela convenait à l'aîné. Il serrait ses yeux. Il lui raconterait le lit et la fenêtre, l'écume blanche du torrent, la montagne par-delà la cour, son sol d'ardoise bleu nuit, la porte en bois, le rempart du vieux mur, les fleurs jaillissant des peaux ventrues avec deux petites anses comme des oreilles. Auprès de l'enfant, il se découvrait patient. Pendant longtemps, son froid moitien avait été la meilleure parade pour calmer une inquiétude. Il aimait provoquer l'événement pour ne jamais l'attendre. On le suivait, ébloui par cet élan net et sans hésitation. La vérité était qu'il redoutait tant d'être la merci d'une chose qu'il préférait l'initier. Ainsi, plutôt que de craindre la cohue d'une cour de récréation, l'obscurité totale de la nuit montagneuse, l'attaque des pipistrelles, il en avait pris le contrôle. Et il s'était jeté dans la cour, dans la nuit, ou sous les voûtes de la cave, habité de pipistrelles que la panique d'une intrusion faisait voler dans tous les sens. Avec l'enfant, plus rien de tout cela ne fonctionnait. L'enfant était simplement là. Il n'y avait rien à redouter puisqu'il ne présentait aucune menace ni promesse. L'aîné sentit en lui une reddition. Ce n'était plus la peine de prendre les devants. Quelque chose le touchait, un message venu de loin qui convoquait la quiétude des montagnes, la présence immémoriale d'une pierre ou d'un cours d'eau dont l'existence se suffit à elle-même. Se jouait en lui la soumission aux lois du monde et à leurs accros sans révolte ni amertume. L'enfant était là de façon aussi évidente qu'un pli de la terre. « Il vaut mieux tenir qu'attendre », se disait-il. Et c'était un proverbe des Cévennes. Il ne fallait pas se révolter. Il aimait par-dessus tout l'impassible bonté, la primaire candeur de l'enfant. Le pardon était dans sa nature puisqu'il n'émettait aucun jugement. Son âme ignorait de façon absolue la cruauté. Son bonheur se réduisait à des choses simples, la propreté, la satiété, le moelleux de son pyjama violet ou une caresse. L'aîné comprenait qu'il tenait là l'expérience de la pureté. Il en était bouleversé. Aux côtés de l'enfant, il ne cherchait plus à brusquer la vie dans la crainte qu'elle ne lui échappe. La vie, elle était là, à portée de souffle, ni craintive, ni combattante, juste là. Progressivement, il décoda ses pleurs. Il sut lequel témoignait d'un mal de ventre, d'une faim, d'un inconfort. Il possédait déjà un savoir censé être découvert beaucoup plus tard, comme changer une couche et donner une purée de légumes. Régulièrement, il tenait à jour une liste de choses à acheter, comme un autre pyjama violet, de la muscade pour parfumer les purées, de l'eau nettoyante. Il donnait la liste à sa mère qui s'exécutait avec, dans les yeux, un murmure de remerciement. Il aimait la sérénité de l'enfant lorsqu'il sentait bon et qu'il avait chaud. Alors l'enfant gloussait de confort, puis la voix s'élevait vers les airs comme un chant ancien, les lèvres toussaient en un sourire, les cils battant, la voix plus haute, en une mélopée qui ne disait rien d'autre que les besoins primitifs rassasiés, et peut-être aussi la tendresse rendue. L'aîné lui fredonnait des petites chansons, car il comprit vite que Louis, le seul sens qui fonctionnait, était un outil prodigieux. L'enfant ne pouvait ni voir, ni saisir, ni parler, mais il pouvait entendre. Par conséquent, l'aîné modula sa voix. Il lui chuchotait les nuances de vert que le paysage déployait sous ses yeux, le vert amande, le vif, le bronze, le tendre, le scintillant, le strié de jaune, le mat. Il froissait des branches de verveine séchées contre son oreille.
Un jour, la pouponnière qui gardait l'enfant dans la journée informa les parents qu'elle n'était plus apte à s'en occuper. C'était un établissement à l'entrée de la ville qui, normalement, prenait en charge des enfants défavorisés, en attente, en transit, parfois légèrement handicapés, mais pas du niveau de l'enfant. Le personnel ne disposait pas du matériel requis, encore moins de formation spécifique. Or, depuis peu, l'enfant était parfois secoué de tremblements nerveux. Ses yeux clignaient très vite. Ses poings bougeaient de façon saccadée. Des petites crises d'épilepsie avaient prévenu le professeur. Rien de douloureux pour lui. Cela passait avec des gouttes de rivotril. Mais c'était assez spectaculaire pour effrayer. L'enfant avait aussi avalé de travers, plus d'une fois. Et les dames de la pouponnière, affolées devant sa toux, se sentaient désarmées. Sans parler de l'épidémie de grippe qui pouvait mettre à terre un corps aussi fragile. Il fallait lui trouver une place. Existait-il des organismes, des instituts, des maisons spéciales, demandèrent les parents. Très peu. Leur pays voulait du solide, du bon rouage. Ils n'aimaient pas les différents. Ils n'avaient rien prévu pour eux. Les écoles leur fermaient la porte, les transports n'étaient pas équipés, la voirie était un piège. Le pays ignorait que pour certains la volée de marche, le rebord et le trou valaient pour falaises, murailles et gouffres. Alors, un endroit dédié aux inadaptés, les parents étaient seuls. Ils prirent l'habitude de se rendre en ville pour des marathons administratifs. Nous les voyions partir tôt, monter vers le petit parking, s'engouffrer dans la voiture. Ils emportaient 2 sandwichs, une bouteille d'eau. Ces déplacements pouvaient durer une journée entière. Dans les mairies, les services sociaux, les instances prétendument dédiées à l'aide des familles, les ministères, on leur enfonçait la tête sous l'eau, multipliant les difficultés. Le parcours était glacial, inhumain, jalonné d'acronymes. MDPH, ITEP, IME, IEM, CDAPH. Les interlocuteurs se montraient absurdement tatillons ou d'une odieuse nonchalance. Cela dépendait. Les parents en parlaient le soir à voix basse. Ils durent se plier à des règles folles. Ils entrèrent dans des pièces grises où les attendait un jury qui déciderait si, oui ou non, ils seraient éligibles à une allocation, un recours, une étiquette, une place. Ils durent prouver que depuis la naissance de l'enfant, la vie avait changé à leurs frais. Prouver aussi que leur enfant était différent. Certificats médicaux, bilan neuropsychométrique, classés dans une pochette plus précieuse encore que leur portefeuille. On leur demanda aussi de dessiner un projet de vie, alors que de celle d'avant, il restait si peu. À bout de tristesse, les parents se tournèrent vers d'autres solutions. Ils cherchèrent plus loin, plus spécifique, plus cher. Ils envisagèrent même de placer leur enfant à l'étranger, dans un pays qui ne verrait pas les atypiques comme des poids. Mais ils renoncèrent car l'idée même de savoir leur petit si loin les accablait. À la nuit tombée, dans la cour, la mère s'essuyait les yeux puis allumait une cigarette. Le père lui resservait une verveine, suspendait son geste, allait chercher une bouteille de vin. Ils entendirent parler d'une maison, une maison isolée, à des centaines de kilomètres d'eux, en forme de L, posée sur une prairie, remplie d'enfants comme le leur, choyés par des bonnes sœurs. Où vivait-elle? Rentrait-elle le soir? Était-elle originaire de la région? Savait-elle que l'enfant était frileux, mais que la laine le grattait? qu'il aimait la purée de carottes et caressait l'herbe, qu'un claquement de porte le faisait sursauter? Et pourrait-elle faire face à une crise de tremblement, une bouchée avalée de travers ou un chalazion, cette inflammation des paupières que l'enfant développait de plus en plus souvent?
Dès sa naissance, la cadette lui en a voulu. Très précisément au moment où sa mère avait passé une orange devant ses yeux et conclu qu'il ne voyait pas. Elle avait compris que cet instant-là était celui de la fracture. C'était fini. Son père avait beau faire l'optimiste, promettre qu'à l'école, ils seraient les seuls à savoir jouer aux cartes en braille, elle n'était pas dupe. Elle voyait bien le voile dans le regard du père et surtout son sourire. Un sourire de bouche uniquement, tandis que ses yeux restaient sans expression, plantés vers le lointain. Mais son frère aîné avait marché dans ce grand mensonge, avait négocié d'être le premier à apporter un jeu de tarot en braille à l'école, lui avait promis des parties rien qu'elle et lui. Alors, la cadette avait opiné, et maintenant, l'enfant régnait. Il aspirait toutes les forces, celles de ses parents et de son frère aîné. Les premiers affrontaient, le second fusionnait. À elle, il ne restait rien, aucune énergie pour la porter. Plus l'enfant grandissait, plus il la dégoûtait. Elle ne l'aurait avoué à personne. Elle n'aimait pas ses yeux noirs, si vides qu'ils en donnaient des frissons. Ni son souffle qu'elle trouvait fétide, ni ses genoux blancs, osseux, très écartés. On lui avait dit qu'à force de rester allongée, les articulations de ses hanches étaient hors d'usage, comme dégondées, que ses pieds grandiraient cambrés comme ceux d'une ballerine, puisqu'ils n'étaient jamais posés au sol. À quoi servaient donc ses pieds, se demandait-elle, s'ils ne portaient aucun corps, n'avançaient pas? Elle avait dû renoncer à inviter des amis. Comment inviter avec un être pareil à la maison? Elle avait honte. En la cadette s'implanta la colère. L'enfant l'isolait. Il traçait une frontière invisible entre sa famille et les autres. Sans cesse, elle se heurtait à un mystère. Par quel miracle un être diminué pouvait-il faire autant de dégâts? La colère la maintenait droite. Elle était une raideur précieuse. Elle était la force des gens debout. Les allongés n'y avaient pas droit. La colère lui permettait des révoltes muettes, des poings serrés dans ses poches, des coups enchaînés dans son oreiller avant de dormir, en un rituel hargneux et consolant. Lorsque le vent devenait tigre fou, que la montagne frissonnait d'une joie mauvaise à l'approche de l'orage, elle se sentait en paix. Elle levait le menton vers le ciel anthracite, humait la tension qui parcourait les herbes. Il lui semblait que la rivière grondait de joie. La cadette attendait le tonnerre et la pluie, car, enfin, elle se sentait comprise. La seule personne qui allégea son cœur fut sa grand-mère. Elle avait habité au hameau autrefois, avant de prendre sa retraite en ville. Parfois, elle l'emmenait en voiture plus haut dans la montagne, vers un arbre particulier. C'était un cèdre qui avait poussé sur la roche, en aplomb de la route. En soi, c'était impossible, aucun arbre ne pouvait planter ses racines dans la pierre. Pourtant, celui-ci s'élançait vers le ciel avec la grâce d'un coup de cygne. Sa grand-mère arrêtait la voiture, se penchait sur le volant, levait la tête vers le tronc mince et disait « Celui-là, il a envie de vivre. » Elle ajoutait « Comme toi. » La grand-mère parlait peu, et comme souvent les taiseux, elle parlait par des actes. De la ville, elle rapporta le Walkman qu'il fallait, puis les baskets dernier cri. Elle abonna la cadette aux revues de son âge. Elle l'emmena voir les nouveaux films au cinéma dans le bourg d'à côté. La grand-mère la hissait à la hauteur des autres. Elle lui offrait une normalité. Beaucoup plus tard, devenue adulte, la cadette s'entendrait dire à une amie « Si un enfant va mal, il faut toujours avoir un œil sur les autres. » Avant d'ajouter pour elle-même « Car les bien portants ne font pas de bruit, s'adaptent aux contours cisaillants de la vie qui s'offre, épousent la forme des peines sans rien réclamer. Ils seront les gardiens du phare, détestant les vagues, mais tant pis, refuser serait déplacé. » Un sentiment de devoir les guide. Ils se tiendront là, vigilent dans la nuit, se débrouilleront pour n'avoir ni froid ni peur. Or, n'avoir ni froid ni peur n'est pas normal. Il faut venir vers eux. Les mois passant, la cadette raya l'enfant de sa vie, passa à l'ignorance complète. Elle ne manifesta pas d'émotion quand les parents annoncèrent que l'enfant partirait dans une maison spécialisée. L'enfant partit vers sa prairie, elle respira. Avec lui disparaissaient les sentiments encombrants de dégoût, de colère et de culpabilité. Il emportait le versant noir de son âme. Elle n'aurait plus mal. Les parents montaient récupérer l'enfant lors des vacances. Lorsqu'il revenait, elle ne l'approchait pas. Elle était occupée, sans cesse dans la maison de sa grand-mère ou chez des copines à qui elle cachait l'existence de l'enfant. À l'entendre, elle n'avait qu'un frère aîné, et si elle n'invitait personne, c'est parce que la maison était en travaux. Au collège, la cadette ne travaillait pas beaucoup. Les professeurs se plaignaient de sa turbulence, se disaient inquiets. Elle rêvait de destruction et de cris sans réponse. Elle provoquait, se montrait méchante, elle cherchait la bagarre. Elle entra au lycée, elle se battit là aussi, à la cantine, puis à l'intercours. Elle fut exclue. Il arriva à la grand-mère ce qui arrive aux aïeux. Elle s'écroula un jour dans sa cuisine, à l'heure du petit déjeuner, vêtue de son kimono léger, dont les effluves de châtaigne et de vanille. Ce fut pour la cadette la fin du monde. L'équivalent du départ de l'enfant pour son frère aîné. Un effondrement peut parfois prendre la forme inverse de ce qu'il recouvre. Le désespoir se mue en dureté. Ce fut le cas. L'appel cogneur, l'impulsion, le bouillonnement de colère, tous ces courants qui tambourinaient à la porte disparurent instantanément, cédant la place à un désert froid. La cadette devint bloc de pierre. Lui vint aussi l'idée qu'elle avait atteint un tel niveau de dureté que ses émotions ne s'exprimeraient plus jamais. Cette crainte fut démentie lors de l'enterrement.
Les parents l'annoncèrent par téléphone. Nous attendons un autre enfant. Ils le firent avec crainte, choisirent leurs mots. Ce fut inutile. L'aîné habitait en ville, occupé par un cursus d'économie. La cadette faisait ses études à Lisbonne. De fait, absent de la maison, ils ne surprirent pas leur mère éveillée en pleine nuit sur le canapé, les pieds repliés sous son ventre rond. Ils n'eurent aucune idée de ces cauchemars d'accouchement catastrophique. Ils ne la virent pas s'enfoncer dans la montagne, dans le silence laineux du soir, les yeux dans le vague et les pieds écartés pour ne pas tomber. Ils ne surent pas qu'elle serra très fort la main de leur père lorsqu'il fallut s'asseoir devant le professeur qui les avait suivis pour leur enfant mort. C'était le même hôpital, le sol de caoutchouc gris et la même question que des années auparavant, leur petit serait-il normal ? Derrière eux palpitait la grande attente des parents blessés, unis en une angoisse, celle d'abîmer la vie alors qu'ils souhaitent la donner. Le professeur leur annonça, échographie sous les yeux, que tout allait bien. Tout va bien. Plus personne n'avait prononcé cette phrase depuis des années, si bien que les parents pensèrent avoir mal entendu, n'osèrent avoir compris correctement, demandèrent qu'ils répètent. Le professeur sourit. C'était décidément un mauvais hasard ce qui leur était arrivé, et c'était une chance que la mère ait pu être à nouveau enceinte alors qu'elle franchissait la quarantaine. Malchance, bonheur, un équilibre finalement, dit le professeur en les raccompagnant à la porte. Il avait l'air ému. Il précisa bien à la mère les examens auxquels elle devrait se plier. Ce serait une grossesse très surveillée, mais désormais, les progrès de l'imagerie médicale révéleraient une malformation. En 10 ans, ce domaine avait considérablement évolué. Puis il se racla la gorge et dit aux parents qu'au moment du scanner de leur 3e enfant, il leur avait caché une vérité. Un enfant différent est une épreuve très difficile. La majorité des couples se séparent. Et maintenant, il était là. C'était un garçon. C'était le dernier. Il arrivait après les drames. Par conséquent, il n'avait pas le droit d'en créer. Il fut exemplaire. Il pleura peu, s'adapta à l'inconfort, à la séparation, aux orages, ne rechigna jamais à l'effort. Il consola ses parents. Il fut le fils parfait afin de compenser celui d'avant. Toute son enfance porta le sceau d'une tension douloureuse autour de sa croissance. Parfois, sa mère lui demandait s'il voyait bien l'orange dans la coupe à fruits au bout de la cuisine. Il répondait « Oui, bien sûr que je vois l'orange ». Alors sa mère avait un sourire qui semblait revenir de si loin, étiré par tant de chagrins passés, qu'il lui détaillait l'orange pour qu'elle continue de sourire. « Elle a l'air molle, disait-il. Sa couleur est foncée. Elle n'est pas complètement ronde. En équilibre au-dessus des pommes, elle se dit qu'elle va tomber, mais elle tient bon. » Sa mère finissait par rire. Il grandit dans les soupirs de soulagement. Les murs étaient couverts de photos qui montraient ses premiers pas, ses premiers mots, ses premiers gestes, et ses traces servaient d'apaisement, d'appel à la tranquillité. Il allait bien. La preuve, il marchait, parlait, voyait. Cela avait été pris en photo, la preuve. Le dernier n'avançait pas seul, il le savait. Il était né avec l'ombre d'un défunt. Cette ombre hurlait sa vie. Il devrait faire avec. Il ne s'insurgea pas contre cette dualité forcée. Au contraire, il l'intégra à sa vie. Ainsi donc, un enfant handicapé était né avant lui, avait vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Les absents étaient aussi des membres de la famille. Souvent, mû par un instinct hors d'âge, il se redressait la nuit. Dans cette famille, plus personne ne dormait correctement. Le sommeil était le moulage des peines, ils portaient leur empreinte. Le dernier se levait, constatait qu'il avait senti juste. Il tombait sur son père qui lisait devant le poêle éteint, ou sur sa mère, assise sur le canapé, les yeux vides, ne regardant rien, errant sur les objets. Alors, il s'asseyait à côté d'eux pour discuter doucement, de tout, de rien. Proposait une tisane de mûrier, racontait l'école, l'accident du camion de la coopérative. Il les protégeait comme on s'assied près d'un enfant malade. Il sentait bien que ce n'aurait pas dû être son rôle. Mais il sentait aussi que le sort aime défaire les rôles et qu'il fallait s'adapter. Cela n'appelait ni réflexion ni révolte. Les choses étaient ainsi données. En lui, il y avait une bonté profonde. La force de sa gentillesse le rendait autonome, imperméable à la bêtise, sûr de son instinct. Ainsi armé, le dernier avait spontanément accepté l'étrange famille dans laquelle il était né. Une famille blessée mais courageuse, qu'il aimait plus que tout. C'est pourquoi il prenait soin d'abord de ses parents. Leur lien était tranquille et puissant. À eux trois, ils formaient un cocon, tissaient des jours en forme de cicatrices. Sur ses épaules pesait la renaissance. C'était à la fois lourd et gratifiant, mais c'était sa place donnée. Parfois, son père ébouriffait ses cheveux avec une tendresse alarmée, une brusquerie qui révélait une crainte, celle de le voir partir, comme s'il fallait le retenir, lui, le dernier, parce que avant lui, il y avait eu la souffrance, et après lui, il n'y aurait rien. Il se tenait dans un entre-deux. Il était à la fois un nouveau départ et une continuité. Une fracture et une promesse. Ses cheveux étaient moins épais que ceux de l'enfant. Ses yeux étaient moins noirs, ses cils moins longs. Il se sentait moins, quoi qu'il fasse, alors que c'était l'enfant pourtant qui avait été diminué. Le dernier pensait cela sans amertume, parce qu'il ressentait une réelle bienveillance, une curiosité envers l'enfant disparu. Il aurait donné beaucoup pour l'avoir connu. Et puis il y avait autre chose. Les instants que le dernier partageait avec ses parents lui appartenaient. Ils étaient nés avec lui. Ils étaient vierges de toute mémoire, ne portaient pas la trace d'un petit fantôme. Le dernier ne se sentait pas dépossédé. Les gardiennes de cette cour, les guettons avec la même hâte que leurs parents qui occupent désormais l'autre maison sur la rivière. Nous reconnaissons le grincement de la lourde porte, le soupir de satisfaction après la route, le mobilier de jardin que l'on sort. Nous les regarderons dîner, nous savourerons le tableau millénaire des générations qui se succèdent, et nous savons qu'en général, lorsque la cadette vient en famille, l'aînée ne va pas tarder. Ils sont restés très proches. Elle lui donne des papiers à signer, le prévient d'une échéance, d'un remboursement, d'un renouvellement. Elle le pousse à sortir, à se faire des amis. Il répond d'un sourire, « Tout va très bien pour moi. » Et nous le croyons. Partout où il va, et spécialement ici, il emmène le souvenir d'une promesse faite sur une tombe. Il laisse une trace. Il peut rester assis des heures au bord de la rivière. Nous apercevons ce grand homme sous le sapin. Il regarde les libellules et les araignées d'eau. Nous savons son âme sanglée de peine. Nous voyons bien que sa main touche doucement les pierres où reposait la tête de l'enfant. Mais nous sentons aussi quelque chose d'apaisé. Parfois, il se tient immobile face à l'emplacement de coussins qui furent longtemps posés dans notre ombre, et il écoute l'après-midi qui vient. Lorsque les cousins sont là, ils participent aux discussions, rient en évoquant le passé. Eux aussi ont fait des enfants. Il aime voir des petits bâtir la même mémoire que la sienne. Il leur interdit d'aller près du moulin, répare un tricycle, exige les brassards au bord de l'eau. Il ne peut aimer que dans l'inquiétude. Il est l'aîné pour toujours. Le soir, c'est lui qui nettoie la cour le dernier, passe un jet d'eau sur les ardoises, les hortensias. Et c'est imparable. Il s'approche, pose lentement son front et ses mains contre nous, se tient contre le mur tiède, les yeux fermés. Un soir, sa nièce de 5 ans le surprend. Elle lui demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Et l'aîné, de son sourire doux, sans tourner la tête, lui répond « Je respire. »
Si ces quelques extraits ont retenu votre attention et vous ont touché, n'hésitez pas à découvrir l'intégralité du roman. Par la grâce de son écriture et sa finesse psychologique, Clara Dupont-Monod nous fait entrer en empathie avec chaque membre de cette famille confrontée à une situation inacceptable. Vous avez entendu les voix de Marie-Paul, Anne, Jean, Annie, Guylaine. Les pauses musicales sont extraites des Jeux d'eau de Maurice Ravel. Claude Michel a assuré le montage de l'émission. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission
www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.